à toutes et tous. Vous êtes sur IDFM Radio 98FM, en DAB+, et en web sur idfm98.fr. Je suis Angèle Guillet, avec Francky à la technique. Bienvenue dans l'émission Les Dessous de l'entrepreneuriat. Ici, pas de success story parfaite, on va parler de l'entrepreneuriat sans langue de bois. Et pour ça, j'accueille aujourd'hui une entrepreneure, je dirais même une multi-entrepreneure, une récidiviste de l'entrepreneuriat, Isabelle Chevrier.
Bonjour.
Isabelle est dirigeante d'Equinox Courtage depuis 2010 et d'Excelsium depuis 2024. Elle accompagne entreprises et particuliers en mutuelle prévoyance et gestion de patrimoine. Bonjour Isabelle, merci d'avoir Bonjour. Accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, tout le plaisir est pour moi.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, dans les dessous de l'entrepreneuriat.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Isabelle, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je connais un peu ton parcours, un peu beaucoup, puisqu'on échange ensemble depuis un certain temps. Raconte-nous, s'il te plaît, comment tout cela a commencé. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter ta première affaire et de quand ça date?
Faire la fête.
C'est un bon résumé.
J'étais étudiante et j'ai mis en pratique ce qu'on m'enseignait à l'école en créant une première activité qui consistait à organiser des fêtes.
Génial.
En le professionnalisant, en embauchant et en ayant une régularité. Ce qui devient un vrai boulot, en fait.
Un vrai job à temps plein, en fait.
Non, pas à temps plein. La première année, c'était le vendredi soir et le samedi soir. Et ensuite, on a rajouté le jeudi.
D'accord.
Mais on faisait chacun deux soirs par semaine.
Génial. Tu avais quel âge à l'époque ?
20 ans. 19 ans. 20 ans, oui,
quelque chose comme ça. Bravo pour te lancer aussi jeune dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'à l'époque, tu avais conscience des risques que tu prenais par rapport à cette activité ?
Bien sûr que non. j'ai pris conscience au fur et à mesure des responsabilités que ça entraînait, mais j'étais prête, je trouvais ça intéressant. Tout est parti d'une première fête que j'ai organisée avec un copain et tout le monde a trouvé ça tellement génial qu'à 7h du matin, au moment des croissants, il devait y avoir encore un peu des vapeurs d'alcool. Ils nous ont convaincus de faire ça toutes les semaines. On a dit oui et puis une fois qu'on a dit oui, ben, il faut que l'intendance suive.
Génial. Et du coup, ça a duré combien de temps, cette aventure ?
Trois ans.
Trois ans pendant lesquels tu étais étudiante en parallèle ou...
Oui, oui, ah ouais. Étudiante.
Chapeau, bravo, parce que mener les deux de front, ça
peut être... Oui, je faisais des doubles études en plus.
Oh, quelle travailleuse.
Il fallait décompresser, c'est pour ça.
J'imagine bien, il y avait besoin. Mais en même temps, est-ce que tu décompresses quand tu organises ce genre d'événement ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on compresse beaucoup avant de décompresser pendant. C'est une métaphore un peu de projet de la vie.
Tout en restant un peu vigilant, j'imagine, pendant les événements.
Ah oui, ça, c'était le job de mon associé, oui.
D'accord. L'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on se répartit un
Exactement.
Peu les missions. Super. Et après, du coup, cette première expérience en tant qu'entrepreneur ?
Eh bien, j'ai fait ce pour quoi j'étais programmée, j'ai fait des études et j'ai pris un job hyper sérieux dans la banque avec d'autres responsabilités. Et bien sûr, je ne parlais pas de cette première expérience.
C'était pas très vendeur.
J'osais pas, je trouvais que ça faisait pas très sérieux. Et puis, les gens étaient plus coincés à l'époque que maintenant, où c'est un plus d'avoir créé une entreprise. À l'époque, ça disqualifiait.
Du coup, t'es passé sous le statut salarié.
Ah oui.
Et ça a duré
tout
combien
ce qui est plus classique. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur bancaire. D'accord. Donc, j'ai fait un peu de tout sauf du guichet, des banques spécialisées dans l'immobilier ou des banques d'affaires.
D'accord. Et pendant combien de temps tout ça ?
Une dizaine d'années.
Une dizaine d'années avant de te relancer dans l'entrepreneuriat.
Et en fait, j'ai découvert ce que j'appelle la savane avec les grands fauves.
J'adore tes images.
Et qui n'est pas un pays women friendly, en tout cas, quand j'ai démarré dans la vie active avec mon grand âge, c'était un deuxième salaire aux yeux des directeurs.
D'accord.
Donc, avec tout ce que ça entraîne. Et j'ai beaucoup souffert d'un management pas sympa pour les jeunes parents. Un jour, je suis partie à 17h pour emmener mon fils chez le médecin. Il y a un collègue en staff room qui s'est trouvé très drôle en me demandant si j'avais pris mon après-midi. Donc qui ça s'est arrivé à tout le monde, mais surtout aux femmes. Mmh. Et en même temps... je trouvais que je n'avais pas assez de liberté à mon goût. Et donc, devoir demander la permission pour remplir ses obligations de parent et tout en ayant une ambition professionnelle, visiblement, c'était incompatible aux yeux de beaucoup, ce qui m'a rapidement fatiguée. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se dit, toute seule, ce sera mieux. Je saurai à qui m'en prendre si ça ne marche pas. Et je saurai où aller chercher des compliments si je suis fière de moi. Parce qu'en plus, je trouve que quand on est salarié, on a très peu de reconnaissance, très peu de compliments. Et on voit bien en face que le chef, lui non plus, n'a pas beaucoup de compliments et que s'il en fait trop, on risque de prendre le melon. Donc tout ça donne des organisations pas très tournées vers la valeur ajoutée, la satisfaction client via la satisfaction des salariés.
Ouais, effectivement, selon le type de management et la pression sur la chaîne de direction... Ouais. On se retrouve des fois un peu...
On parle des banques, là. Hein.
Ah, ouais. Pardon.
Et donc, j'ai créé une start-up au temps des Gaulois, en 1999. Et dans la finance, ça s'appelait Internet Finance. Et c'était une super aventure, j'ai adoré. Je n'ai pas gagné d'argent, j'ai appris des dures leçons.
D'accord.
J'ai appris que la première chose à faire quand on crée une entreprise, c'est de faire un business plan. Et la deuxième chose, c'est de prévoir sa rémunération dans le business plan.
C'est mieux, si on veut en vivre.
Parce que je ne me suis pas payée pendant 2 ans.
Ah oui.
Et donc, j'ai un trou dans ma carrière du point de vue des trimestres, de la retraite, tout ça, ce qui n'a aucun intérêt à 30 ans, mais ce qui peut devenir un sujet par la suite. Donc, 2 ans, ça va encore, mais il ne faut pas que ça dure trop.
Ça marche. Merci Isabelle déjà pour cette première partie d'explication de ton parcours. On va marquer une petite pause musicale et on reprend juste après.
Comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche. je sens pour. Tout le temps elle me parle d'amour, elle veut faire tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. Oh. J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, fais en un, je suis pas au malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme Pépé Calé, c'est pas comme ça.
Me parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex était chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes bien sur IDFM Radio dans les dessous de l'entrepreneuriat. Je suis Angèle Guillet et nous sommes avec Isabelle Chevrier, courtière en assurance et en gestion de patrimoine. Isabelle, tu nous racontais tes débuts en tant que chef d'entreprise et ton parcours. Une question me vient. Qu'est-ce qui t'a fait douter? Est-ce que tu as douté un moment? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait douter?
Alors, avec cette première expérience de société, je dirais, post-fête, donc avec Internet Finance, j'ai découvert qu'on peut investir beaucoup d'argent et être mis à terre avec des circonstances extérieures. En l'occurrence, l'éclatement de la bulle Internet a eu raison de mon business model et ma société a atteint le coma dépassé. Donc plus d'activité, plus de clients, plus de... Et là, se pose la question du stop ou encore. Parce que, je l'ai appris par la suite, on peut laisser beaucoup de plumes et il faut savoir
s'arrêter à temps.
Prendre ses pertes, comme disent les financiers. C'est-à-dire, est-ce que je gèle mes pertes au jour d'aujourd'hui ou est-ce que je continue à essayer de sauver ma boîte, quitte à perdre plus. Et ça, c'est une vraie décision qui doit être prise seule ou à cause des circonstances, voilà, plus ou moins rapidement, mais c'est très formateur.
Oui, j'imagine que c'est une décision qui est compliquée à prendre.
En fait, on est pris dans un million de trucs à faire, on perd sa lucidité et on ne sait pas appuyer sur le bouton stop. Alors moi, ce qui a été simple, c'est que mon activité s'est complètement arrêtée en quelques semaines. Et comment dire, j'ai été réveillée par une procédure qui a changé maintenant, mais qui consistait à faire rentrer dans la danse un liquidateur.
Oui.
Et j'ai très vite identifié que ce monsieur, potentiellement, voulait récupérer, parce que tout le monde doit se rémunérer, récupérer des miettes du peu qui me restait pour se payer lui-même.
D'accord.
Et donc, ma façon de sortir par le haut sur le plan personnel de cette situation professionnelle calamiteuse a été de mettre en route ce troisième enfant que je voulais depuis très longtemps.
C'était l'occasion.
Et donc, je suis arrivée chez le liquidateur, j'avoue, avec le cheveu sale. Un pull moulant sur mon gros ventre, hein, que je mettais bien en avant, pour apparaître comme une proie piteuse. Et d'accord. Ça a bien marché. Il m'a laissé tranquille. Donc, je m'en suis sortie, entre guillemets, en perdant l'argent que j'avais mis dans l'entreprise, mais aucun argent personnel.
D'accord, c'est déjà ça, t'as plus protégé ton patrimoine personnel.
Toutes les stratégies sont bonnes.
Encore faut-il les connaître. Mais
légales, bien sûr.
Bien sûr. Et donc, malgré ça, tu as re-signé, me semble-t-il.
Alors, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que j'en étais arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, ok, j'ai pris cher dans la banque, quel est le métier maintenant qui permet à une femme de gagner sa vie sans qu'on le lui reproche?
Oui.
Et deuxième critère, sans qu'on lui reproche de prendre un an tous les ans.
D'accord.
Et j'ai cherché une nouvelle activité uniquement au travers de ces deux critères.
Okay.
Et c'est là où j'ai découvert l'accompagnement des entrepreneurs en matière de protection sociale et de gestion de patrimoine. Donc j'en étais à, on va dire, la moitié de mon parcours professionnel, une petite moitié. Mais ce qui m'avait déjà, avec des expériences d'activité à mon compte, et on m'a convaincue d'accompagner les entrepreneurs. Donc là, je suis devenue salariée payée essentiellement à la commission, à la mondiale.
D'accord.
C'était avant la crise de 2007-2008 et qui est AG2R devant le nom. Et c'était la meilleure école du secteur. Donc, pour me reconvertir, j'ai rejoint une entreprise qui m'assurait une formation de qualité. Et j'ai fait ce qu'un chasseur de tête un jour m'avait déjà reproché de faire, qu'il ne faut jamais faire, c'est changer de secteur et changer de fonction en même temps. Et moi, ça ne me suffisait pas. En même temps, j'ai eu mon troisième enfant.
Tu es pleine de ressources pour rebondir à chaque fois.
Je ne sais pas, mais non, je ne me vois pas comme pleine de ressources. Je me vois comme très motivée pour ne pas retomber dans les ornières. C'est une très bonne motivation pour créer son activité et être libre. Mmh. Et une des qualités que j'ai identifiées pour être heureuse dans mon boulot, à ce moment-là, c'était d'être libre. Et donc, comme je t'ai payée essentiellement à la commission, eh bien, j'organisais mon effort et je me fixais des objectifs qui m'appartenaient entièrement. Et avoir des objectifs qui ne sont pas fixés par les autres, c'est une grande liberté.
D'accord, tu étais salariée à ce moment-là.
Alors, j'étais salariée à la commission.
Okay. Donc, tu organisais, tu avais quand même une certaine liberté, une certaine
J'avais
autonomie.
J'avais un cadre.
Oui.
Et j'avoue, ce qui m'en a fait partir, c'est la réunion du lundi matin.
Ah, la fameuse réunion du lundi matin.
Des commerciaux.
Ouais.
Et donc, je revenais de mes week-ends en pleine forme et prêt à dérouler tout mon petit programme de la semaine. Et la semaine commençait par 3 heures de réunion qui me mettaient des bottes en plomb.
Ah, c'est moche pour démarrer la semaine.
Voilà. Et on me disait, mais non Isabelle, mais c'est vraiment pour te donner la motivation, fixer tes objectifs. Et je disais, ben non, c'était mieux avant la réunion. Et donc, je suis partie après la crise de 2007-2008, oui. Qui a été compliquée pour un certain nombre d'établissements, dont la Mondiale, qui a été rapprochée d'AG2R. Et moi, j'ai repris ma liberté à ce moment-là. Et c'est là où j'ai créé mon premier cabinet d'assurance de personnes.
Premier cabinet, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres ?
Eh bien, il y a eu Excelsium en 2024. Wow.
Ça en fait un sacré parcours avec...
Oui, mais quand on regarde les choses a posteriori, c'est facile de trouver une logique et une cohérence que je n'avais pas du tout à l'époque, qui n'était pas claire à mes yeux. Parce que quand on est, quand on passe à la machine à laver programme essorage, on ne voit pas bien toute cette cohérence. On se sent ballotté, bousculé. À côté de ça, il y a la vie perso, les enfants, le conjoint. Enfin bon, on fait comme on peut, en fait. C'est a posteriori qu'on peut voir les choix qu'on a faits. Et là, j'ai envie de dire, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, ce qui m'a sauvée, c'est m'en tenir à mes valeurs et définir mes valeurs. Et si j'ai un petit conseil en passant comme ça à donner aux entrepreneurs, c'est se fixer un temps de réflexion avec soi-même, identifier ses valeurs et quand on a des décisions à prendre, eh ben les prendre avec des piliers que sont nos valeurs, on a moins de chances de se tromper.
Oui, je comprends. C'est important de se respecter, d'être aligné.
Oui, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. Il y a ces bonnes réponses à soi. Donc, on peut demander conseil, mais les bonnes réponses des autres ne sont pas forcément bonnes pour nous. Voilà le petit truc que j'ai trouvé qui est de définir... mes vertus cardinales.
Que d'informations. Merci Isabelle pour ces premiers conseils. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et que l'on reprenne juste après. À tout de suite. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Woman of you.
supersonic man out of you.
Such a good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Vous êtes bien sur IDFM Radio dans les dessous de l'entrepreneuriat. Je suis Angèle Guillet et nous sommes avec Isabelle Chevrier, courtière en assurance et en gestion de patrimoine. Isabelle, quand je t'écoute depuis le début de cette émission, je me rends compte qu'il y a un fil conducteur dans ton parcours. C'est ton envie de liberté, ton envie d'équilibre dans ta vie. Est-ce qu'il y a une source d'inspiration ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé pour maintenir ce cap et répondre à cette envie de liberté ?
Alors, la liberté chez moi, c'est essentiel depuis toute petite. Mais un jour, je suis tombée sur un livre qui a, en quelque sorte, théorisé un tas de choses autour de ça dans l'entrepreneuriat, qui s'appelle Company of One. C'est un titre un petit peu difficile à traduire. En français, on pourrait dire solopreneur, mais c'est un peu réducteur, c'est pas très positif, alors que Company of One, c'est vraiment littéralement entreprise d'une seule personne, qui a enfin été traduit en 2024, donc qui est édité par les éditions Erol, et ils ont gardé comme titre One.
D'accord.
Et on peut dire que ce livre a changé ma vie d'entrepreneur parce que il théorise le fait que on n'est pas obligé de grossir pour être une entreprise qui réussit. Et grossir nous éloigne souvent de notre métier et des raisons pour lesquelles on a créé une activité, une entreprise. Parce que quand on cherche toujours plus de chiffre d'affaires, ça entraîne plus de financement, parfois ça entraîne plus de locaux parce qu'il faut embaucher et ça entraîne donc des charges fixes, donc du stress et de l'administratif que je déteste royalement puisque mon métier consiste aussi à faire l'administratif.
C'est ce que j'allais te dire, c'est un comble de ne pas aimer l'administratif quand on fait ton métier.
Ben, je le fais volontiers pour mes clients, mais en rajouter une couche d'entreprise, non, c'est un peu beaucoup. Et donc, après avoir essayé d'embaucher des gens sous différents statuts, je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais manager. Moi, j'aime bien prendre des gens pour leur qualité et manager leurs défauts. Ça me fatigue très vite de répéter « fais ci, ne fais pas ça ». Et donc, ce livre m'a décomplexée en quelque sorte. Et donc, il théorise le fait que quand on crée une entreprise, ça n'est pas mal de vouloir de la croissance. Il y en a qui sont très bien pour ça, mais on peut faire autre chose. Il y a d'autres schémas de réussite, et notamment la qualité de sa croissance et de son activité. Et donc, moi, j'ai identifié des choses qui me tenaient à cœur, des critères qui me tenaient à cœur, qui sont créer de la valeur ajoutée pour mes clients, parce que les assureurs peuvent devenir chronophages, alors que c'est simplement parce que eux sont mal organisés. Donc, en supprimant cet administratif sans valeur ajoutée pour mes clients, je leur apporte de la valeur ajoutée. Et finalement, je n'ai pas grandi en me disant « quand je serai grande, je serai assureur ». Comme souvent dans la vie, ce qui importe n'est pas le quoi, mais le comment. Mmh. Et donc, en faisant de l'assurance de personnes, ça me permet de rencontrer des chefs d'entreprise qui sont les gens que j'apprécie le plus dans ma vie professionnelle, parce qu'ils râlent moins que la moyenne, parce qu'ils ont tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et parce que quand ça va pas, bah, ils sont prêts à travailler plus et à aller de l'avant. Et moi, j'estime que j'ai une grande chance parce que je passe mes journées avec ces gens. Et c'est très important de déterminer qu'on soit entrepreneur ou salarié ou jeune qui démarre dans la vie, de déterminer avec qui on veut passer ses journées en fait. Est-ce qu'on veut les passer avec des administrations et des formulaires CERFA ou avec des directeurs salariés ou des salariés en général, ou des entrepreneurs. Ça n'est pas la même vie au quotidien.
Oui, effectivement, quand on est jeune étudiant, on pense à un métier, mais on ne pense pas forcément aux gens qui vont nous entourer le plus.
Exactement. Et aux jeunes, on leur dit, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et bien sûr, c'est une question très difficile pour eux.
Très importante, oui.
Mais je pense que ça pourrait les aider si on leur disait « avec qui tu as envie de passer tes journées ?» Parce que c'est plus discriminant.
Oui, puis c'est une autre manière d'aborder l'avenir. En fonction des gens avec qui on a envie de passer nos journées, il peut y avoir différents métiers derrière. Ou différentes manières de le faire.
Exactement, parce que passer sa vie... Il n'y a aucun jugement de valeur dans tous les métiers que je vais citer, mais on n'a pas les mêmes journées. Quand on passe une demi-journée avec un comptable, et le matin avec un comptable, l'après-midi avec un directeur administratif et financier, ou une demi-journée avec un directeur commercial et l'après-midi avec un directeur juridique. Donc il y a des métiers comme le mien qui me permettent de voir tous ces métiers. Donc, je peux très bien, le matin, voir un boulanger, l'après-midi, un avocat, pour leur propre contrat, bien sûr. Le lendemain, un chef d'entreprise de 50 personnes, etc., etc. Et c'est ce qui fait la richesse de mon métier, finalement.
La diversité des rencontres.
Exactement. Et c'est une des choses que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est de me lever le matin et de me dire « Ah, chic, je vais écouter une nouvelle histoire d'entrepreneuriat ».
Merci Isabelle pour toutes ces infos. Et pour ce livre que je ne connais pas, du coup, tu m'as donné envie de l'acheter, d'aller le lire. Effectivement, il y a plusieurs manières de faire croître son activité. Toi, tu as parlé de l'idée de la faire croître seule, mais on a des entrepreneurs autour de nous qui grossissent, qui font du chiffre d'affaires, qui embauchent. Ce ne sont pas du tout les mêmes risques derrière qui sont pris.
Oui, et ce que ce livre explique, c'est qu'on peut tout à fait travailler en réseau et rester seul dans son entreprise. Sur le plan juridique, sans embaucher de salariés, mais en embauchant entre guillemets, des prestataires, partenaires.
En faisant appel à d'autres indépendants, en fait.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et en créant une équipe ad hoc, une équipe dédiée à chaque projet qui est modulable selon les projets et qui évite ces inconvénients de management. Et ce que me disent tous mes clients, puisque j'ai beaucoup de clients qui ont des salariés, qui me font un retour en disant on n'arrive pas à recruter des gens motivés, ils sont formidables en période d'essai, et quand ils sont quand on transforme leur période d'essai en CDI, bah, ils se mettent à avoir une productivité moindre, à poser des arrêts de travail. Et c'est une manière de contourner également l'épaisseur du code du travail, qui, je crois, fait 60 000 pages.
Je pense qu'on n'en est pas loin.
Les nouvelles réglementations qui renchérissent le coût du travail, en fait, sont un facteur d'incertitude pour les chefs d'entreprise. Alors que quand on passe par des contrats de prestation, le coût est
moindre.
Je sais pas s'il est moindre, mais en tout cas, il est fixé à l'avance. On n'a pas de mauvaise surprise.
Oui, il ne va pas y avoir une nouvelle loi pour inventer une nouvelle cotisation sociale pour les indépendants.
Alors, il peut y avoir un nouveau coût pour les indépendants, mais quand ils sont engagés sur
un tarif,
bah, en fait, ils prennent cette charge sur leur marge. Mmh.
Merci Isabelle pour ces informations sur ce livre fort inspirant. Je propose une pause musicale et on reprend juste après.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace. Mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes bien sur IDFM Radio dans les dessous de l'entrepreneuriat. Je suis Angèle Guillet et nous sommes avec Isabelle Chevrier, courtière en assurance et en gestion de patrimoine. Isabelle, pendant ton parcours, tu as fait des allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat. Tu n'as jamais eu envie de rester finalement salarié ou de repasser à un système un peu sécurisant et peut-être un peu moins challengeant que l'entrepreneuriat ?
Retrouver la savane et les grands fauves.
C'est vrai.
Au 29e étage d'une tour de la Défense. Ah. J'ai donné. Alors, pour moi, c'est une fausse sécurité d'être salarié. Mais encore une fois, je ne juge pas les gens qui sont salariés. Je le dis pour moi-même. Mm-hmm. Pour moi, c'est beaucoup trop de contraintes. Parce que il faut accepter que les objectifs soient fixés par quelqu'un d'autre, que les horaires soient fixés par quelqu'un d'autre, que le salaire soit fixé par quelqu'un d'autre, que la façon dont on arrange son bureau limite soit fixée par quelqu'un d'autre.
Oui, enfin, j'ai connu aussi.
Tout ça, et j'en oublie. Mmh. C'est celles qui me viennent spontanément, mais il doit y en avoir deux ou trois fois plus. Et au quotidien, c'est beaucoup trop pour moi. Alors que oui, je comprends que avoir un agenda vide et de avoir la responsabilité de remplir cet agenda et prévoir toutes les fonctions de l'entrepreneur qui sont la prospection, les devis, les signatures, le service après-vente, la gestion des clients, la gestion de son entreprise, les relations avec des gens formidables comme le fisc et l'URSSAF. Sans oublier son expert comptable, son avocat et j'en passe et des meilleurs. Oui, je comprends que ça puisse faire peur aux gens, mais moi, ça me fait encore plus peur de me dire que je pourrais un jour quitter le monde professionnel et avoir des regrets. Les regrets de ne pas avoir mis en œuvre mon activité à ma façon, de la manière, à ma manière. C'est facile de critiquer. C'est toujours plus facile de critiquer que de faire à sa façon. Et l'entrepreneuriat permet de se responsabiliser et de remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de choses. Ça apprend l'humilité, je trouve.
Ça, j'imagine bien. Du coup, j'ai envie de faire le lien avec la rémunération. Quand on est entrepreneur, il y a un mythe, parfois, je l'ai entendu sur des jeunes lors d'un forum des métiers, où ils ont tendance à penser, quand on est entrepreneur, on est riche, on gagne plein d'argent. Est-ce que tu t'es toujours rémunéré pleinement pendant tout ce parcours ?
Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que je vous ai raconté que je ne me suis pas payée pendant 2 ans, et donc que ça a été une formidable leçon. Et il est possible de se tromper, mais pas refaire toujours la même erreur encore et encore. Donc, celle-là, je l'ai faite pendant 2 ans, et je n'ai pas recommencé. Donc, quand j'ai créé mon cabinet d'assurance, j'avais des clients que je suis allée voir en amont et qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à me faire confiance et à me suivre. Donc j'ai démarré dans de très bonnes conditions puisque j'avais été licenciée techniquement. Mm-hmm. Que je n'avais pas de clause de non-concurrence, et que dans ce job où j'étais payée à la commission, en plus, en étant salariée, je payais mes propres cartouches d'encre et mon abonnement téléphonique.
Ah oui.
Ce qui fait que quand j'ai quitté l'entreprise, les gens continuent à m'appeler. C'est bête.
C'était une aubaine pour toi ?
Que je n'avais pas identifié tout de suite. Mais pendant des mois, les clients m'ont appelé en disant « Mais Isabelle, je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui m'appelle là. » Je dis « Oh, je vous explique. » Et si j'ai un conseil à donner là encore aux jeunes qui démarrent dans la vie ou à ceux qui imaginent créer un jour une activité. Maintenant, il existe un formidable statut qui s'appelle le micro-entrepreneur. Avant, on disait auto-entrepreneur, c'est pareil. Et qui permet d'avoir son job salarié et d'ouvrir une activité à côté de son job salarié. Alors, il faut faire attention à ces fameuses clauses de non-concurrence, mais sinon, on peut tout à fait développer une activité à côté, apprendre sur le tas le métier d'entrepreneur, valider son offre, valider son business model, et quand on sent que ça décolle, bah, à ce moment-là, on peut quitter son job salarié et se lancer en 100%. Solo. Je trouve qu'il y a moins de risques. Ça évite de ne pas se payer pendant quelques temps et de prendre trop de risques. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à se payer en ayant bien sûr pris la précaution de prévoir sa rémunération avec les charges sociales, je précise, dans son business plan. Parce que souvent, on oublie les charges sociales de la rémunération dans le business plan. Bon, ça aussi, ça fait partie de mon métier. Je connais bien le sujet. Donc, quand on se paye 1 000 euros en étant salarié, ça coûte 1 500 à la société et salarié de sa propre SAS ou SASU. Et on touche 800 euros ou 780 avant impôt. Et si on est indépendant et qu'on se paye 1 000 euros, bah ça coûte grosso modo 1 300, 1 400 euros, donc un peu moins cher, mais il faut prévoir une protection sociale en plus. Et en général, on gagne un peu mieux sa vie. Mais c'est important de... On ne peut pas tout voir en même temps quand on se lance, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets. Et je me rends bien compte avec le recul qu'on ne peut pas tout apprendre à sa première entreprise. Et quand on crée plusieurs, en tout cas au moins deux entreprises, on devient chevronné sur ces sujets. Et on est plus efficace, plus rapide, plus performant dans l'atteinte de ses objectifs.
On apprend de ses erreurs, en gros.
On progresse, on devient meilleur, on s'améliore.
C'est un vrai sujet, le revenu du dirigeant. On n'en parle pas très souvent, je trouve. Et pour autant, j'en connais un certain nombre qui ne se rémunèrent pas, même après plusieurs années d'activité. Dans les cotisations dont tu parlais et les charges, je trouve qu'il est important de rappeler quand même que quand on est micro-entreprise ou président de SAS, il n'y a pas de chômage derrière. C'est quand même... ça coûte moins cher en termes de cotisations, mais derrière, en cas d'activité qui s'arrête, il y a moins de couverture aussi.
C'est vrai que je n'ai pas peur de ça. Aussi parce que j'ai déjà fait faillite et que j'ai bénéficié de cette immense leçon. Le chômage est un parachute avec les avantages et les inconvénients, encore une fois, à mes yeux. L'avantage, c'est que quand on a une famille, des charges, bah, c'est un parachute. L'inconvénient, c'est que on peut être tenté de sauter de l'avion un peu trop tôt. Et ce que je veux dire par sauter de l'avion un petit peu trop tôt, c'est que quand on est, quand on a la porte ouverte de l'avion et qu'on doit sauter, en tant que c'est une image, en tant qu'entrepreneur, on doit se poser la question, on en revient à la question du début, mmh. est-ce qu'on prend nos pertes, c'est-à-dire est-ce qu'on saute de l'avion ?
Oui.
Ou est-ce qu'on reste dans l'avion en acceptant de se remettre en cause pour continuer le voyage ? Et la rémunération est le reflet de ses choix. Et la rémunération est la récompense de l'entrepreneur, en quelque sorte. Et non pas qu'il faille accepter n'importe quelle mission pour gagner de l'argent, mais la rémunération est à la fois le carburant et l'indice de reconnaissance des efforts qu'on a fournis vis-à-vis de soi-même.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais parler de reconnaissance. Effectivement, quand on arrive à se rémunérer, c'est que derrière, on a trouvé des clients et du coup, on a une certaine reconnaissance de leur part.
Et une reconnaissance de soi-même et de sa famille. Parce que quand on crée à 20 ans, ce n'est pas la même chose que quand on crée à 40 ans ou à 50 ans. C'est important d'avoir du soutien, de savoir pourquoi on crée son entreprise. Moi, j'ai créé mon entreprise. Mon premier cabinet d'assurance, j'avais 3 enfants et je voulais leur montrer que dans la vie, on peut se donner les moyens d'être libre, de faire ses choix, qu'il faut travailler dur, mais qu'il n'y a pas une seule voie. Et je vois le résultat maintenant qu'ils ont grandi, où ils se rendent bien compte que être entrepreneur ou avoir un job ne doit pas être la porte ouverte à accepter des choses inacceptables. Il y a une question de liberté, mais il y a aussi une question de... On parle beaucoup de burn-out et de différents syndromes d'ennui profond. On appelait ça la placardisation il y a longtemps. Je trouve ça terrible que des gens en soient rendus à souffrir et ne voient pas de porte de sortie. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'une activité à côté, est une source d'épanouissement, même si on ne gagne pas énormément d'argent. Mais ça peut donner beaucoup de confiance en soi et de la petite soupape de la petite bulle de changement, d'innovation, de confiance en soi et de communication, d'autres choses vis-à-vis de son entourage.
Tu parles de ton entourage, j'aimerais bien qu'on y revienne, mais avant, on va faire une petite pause musicale. À tout de suite.
T'inquiète, ouais, t'inquiète, t'es la plus belle, ouais, la plus belle de Montel. Artificielle, mais je tire les ficelles, je vis comme en laisse. Je sens que parfois, comme l'oseille, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
C'est la Warano à tes têtes. Tu fais pas partie de la chorale. Elle aime les mecs en ce plat. Avec de l'aura, tu l'auras. Champs-Élysées, balade vers les Champs-Élysées.
bébé les bancs m'ont localisé. Prends le volant, je suis alcoolisé. Elle active les lumières tamisées. Elle active les lumières tamisées. Avec moi quand c'était la misère. Elle veut du sérieux, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel, les canons comme pas possible.
Moi je veux une parisienne, parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
Avenue Montaigne, rien de personnel, mais trop de professionnels, ça me lâche pas d'une semelle. Ça va couper, j'ai l'excuse du tunnel. Numéro uno, encore cette semaine.
Parfois, comme l'oseille, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix.
Moi, je veux une parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
Ce soir, j'ai oublié, on sort les gros billets. Appelle les bons billets, bon billet, mon billet. Et ce soir, j'ai oublié, on sort les gros billets. Appelle les bons billets. Ce soir, je vais t'oublier, papa. On sort les gros billets, maman. Appelle les pompiers, ton billet, mon billet.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes bien sur IDFM Radio dans les dessous de l'entrepreneuriat. Je suis Angèle Guillet et je suis accompagnée d'Isabelle Chevrier, courtière en assurance et en gestion de patrimoine. Isabelle, tu as évoqué tes enfants et ton entourage juste avant la coupure. J'avais justement une question en lien avec l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un sujet qu'on aborde souvent, qui est souvent revendiqué aujourd'hui. Comment as-tu vécu ton statut d'entrepreneur, ton rôle de maman et comment tes enfants ont vécu ce métier et ce statut ?
Alors, moi, je veux tout. Je veux être une maman. Je veux être. Je ne veux pas être une maman au foyer. Je serais insupportable comme maman au foyer. Ça m'est arrivé pendant mes congés maternité parce que j'ai bénéficié de longs congés maternité dans la banque pour mes deux premiers enfants. Et au bout de 6 mois, j'en pouvais plus, en fait. Donc, c'était en plein hiver. Hein, tout le monde travaillait. Je me sentais seule. Et pour quelqu'un qui aime bien voir du monde, en fait, j'adore mes enfants, mais ils ne suffisent pas à remplir ma vie. Et bien sûr que s'il leur arrive quelque chose, ils sont ma priorité, mais j'estime que pour aussi leur apporter une certaine compréhension, parce qu'on fait des bébés, mais un jour, ils deviennent ados, ils nous dépassent. Oui. Ils ont une vision sur le monde qui nous heurte parce que c'est ainsi depuis que le monde est monde. Et j'estime que la carrière professionnelle, si elle est choisie, et donc quand on est entrepreneur, on choisit une bonne partie de ses journées, permet d'apporter une richesse, une compréhension à ces fameux ados. Alors évidemment, ça tombe toujours le jour où on a eu une journée difficile, particulièrement longue et particulièrement difficile, où notre ado nous dit « maman » et nous pose la question qui tue, qui va faire 2 ou 3 heures. Et je savais que pour maintenir le dialogue, il fallait pas dire non, je suis fatiguée. Donc parfois je rentrais très tard et mes ados préparaient le repas et avec une certaine, préparation en amont, bien sûr. Tout ne se fait pas spontanément. Mais j'ai eu une éducation assez dans la négociation. Donc, mes différents métiers, fonctions, postes m'ont appris à négocier avec des gens que je ne connais pas bien, ce qui m'a servi quand mes enfants sont devenus ados et devenaient des personnes parfois étranges, et réciproquement, parce que le métier de chef d'entreprise... C'est beaucoup dire non.
Oui.
Quand j'avais des salariés ou des gens que je faisais travailler, je devais leur dire non, je ne peux pas t'augmenter. Non, je ne veux pas de ton super pack à plus 30%, vachement plus intéressant. Non, ceci, non, cela. Et finalement, c'est comme avec les ados. Un jour, on m'a dit, c'est une copine qui m'a donné un truc très sympa. Aux enfants, il faut dire une fois sur trois oui. Il ne faut pas dire tout le temps non. Donc, je vais me faire percer les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles. Il faut bien attendre avant de dire non. Parce que peut-être qu'après, il y a une question où on a particulièrement envie de dire non. Et finalement, les boucles d'oreilles, c'est pas mal.
Choisir ses combats.
Et je trouve que les deux vies, professionnelles et personnelles, en tout cas vis-à-vis des enfants,
c'est bien articulé. Est-ce que l'entrepreneuriat t'a permis d'assumer ton rôle de maman comme toi tu en avais envie ?
Alors oui, parce que j'ai pu choisir mes horaires.
Ouais.
C'était très important pour moi de faire en sorte que quand mes enfants étaient au collège, ils ne croient pas qu'ils peuvent rentrer à 19h parce que maman ne rentre pas avant 19h. Et le fait d'être indépendante et de rentrer... Un coup à 15h, un coup de ne pas être sortie de chez moi, un coup de rentrer tard, les mettait dans une insécurité horaire qui les obligeait à respecter les règles de la famille. C'est un exemple. Mais encore une fois, c'était une négociation un petit peu donnant-donnant. Voilà, je ne suis pas la meilleure maman du monde, mais comme tout le monde, j'ai essayé de faire de mon mieux et en expliquant, je trouvais ça plus simple d'expliquer mes contraintes en tant qu'entrepreneur que quand j'étais salariée et que j'avais des contraintes données par ma hiérarchie, ce qui me montrait bien que j'assumais beaucoup mieux les unes que les autres. C'est un bon miroir, les enfants. Et une entreprise est un bon miroir, une activité est un bon miroir. Je me suis rendu compte que puisque je vois de nombreux entrepreneurs et je les accompagne au fil du temps, j'ai des clients que je connais depuis deux décennies maintenant, on a grandi ensemble. Finalement, l'entreprise est un miroir et quand une entreprise plafonne, c'est que le chef d'entreprise plafonne. Et quand une entreprise a du mal sur telle ou telle fonction, bien sûr, le chef d'entreprise ne doit pas savoir tout faire, mais il doit quand même savoir tout animer.
Oui, c'est lui qui insuffle l'énergie.
Et quand une fonction pêche, c'est aux dirigeants de remettre une impulsion. Alors, soit en se formant, soit en déléguant mieux quelque chose qu'il n'arrive pas à faire ou qu'il n'a pas envie de faire. Et l'entreprise est pour moi un moyen qui m'a permis d'apprendre et de progresser sur moi-même.
C'est formateur.
Non seulement c'est formateur, mais c'est formateur par les contraintes, mais c'est formateur par le retour que ça nous envoie immédiatement. Parce que les effets sont là tout de suite. C'est pas comme quand on est salarié et qu'on a un retour à l'entretien annuel.
Oui, une fois par an avec l'entretien annuel, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, là, tu as des retours immédiats, que ce soit par les clients, par les partenaires, qui sont ou ravis de travailler avec toi, ou qui, quand ils ont un besoin ou un mécontentement précis, te le disent tout de suite aussi.
Voilà, une bonne insatisfaction client est une formidable occasion de progresser et de voir ce qu'on n'avait pas vu en fait. Parfois, un client mécontent est souvent le produit d'un trou dans la raquette. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais maintenant, je sais remercier le client mécontent. Donc, ça a le mérite de le désarçonner. Et ensuite, je le remercie pour m'avoir aidé à progresser. Parfois, ça nous est tous arrivé en lui disant au revoir. Ou alors, en le rattrapant à la dernière minute grâce à cette pirouette. Mais c'est vrai que quand on est transparent sur le fait qu'on n'a pas été bon et qu'on a à cœur de s'améliorer, le client peut être touché par cette attitude et passer l'éponge.
Oui, ça peut permettre de le garder.
Même si ça doit arriver le moins souvent possible.
On est bien d'accord. C'est quand même nos clients qui nous font manger. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on reprend juste après, Isabelle.
I can see is in the conscience. deep inside. Their feelings of love they don't hide.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, dans les dessous de l'entrepreneuriat. Je suis Angèle Guillet et je suis accompagnée d'Isabelle Chevrier, courtière en assurance et en gestion de patrimoine. Isabelle, tu nous parles de ton parcours, de ton long parcours depuis tout à l'heure. Du coup, une question me vient. On a quand même connu un certain nombre d'événements depuis tes débuts. Et je pensais à la période Covid. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec le Covid ?
Oh là 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 là. Tout. Avant le Covid, je fonctionnais beaucoup par recommandation de mes clients que je voyais en rendez-vous physique.
Ah oui.
Arrive le premier confinement. Mmh. Je fais de la gestion par téléphone, mais sinon, je fais quoi ? Mon agenda devenait une passoire. En dehors du fait que je me suis rendu compte que mon métier me permettait de voir beaucoup de monde et que sans ça, je m'ennuyais beaucoup plus, je me suis rendu compte que plus rien ne serait comme avant.
Oui.
Et que je n'aimais pas les rendez-vous en visio et que je ne savais pas prospecter sur les réseaux.
C'est un métier. On est d'accord.
C'est un long combat. Et au deuxième confinement, je me suis payée une formation LinkedIn. En fait, une formation de communication. Je ne savais pas communiquer sur mon métier. Et c'est là où je me suis rendu compte que le savoir-faire ne suffit pas. Et que pour être un bon entrepreneur, il faut faire savoir.
Ah, j'aime bien. Le savoir-faire ne suffit pas. Il faut faire savoir.
Et c'est un long chemin. Et bien évidemment, cette formation ne m'a pas permis d'un coup de baguette magique de remplir mon agenda et de récupérer le chiffre d'affaires que j'avais perdu. Par contre, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'aimais ou pas faire, comment j'aimais ou pas communiquer. Et j'ai pris la décision de rejoindre un groupe d'entrepreneurs à ce moment-là. Et ça a été une très bonne chose pour moi. Et avec le recul, je me dis que le Covid a eu cet effet positif de me faire sortir de ma coquille de faire savoir. Et m'a obligée à travailler sur cette compétence sur laquelle je n'avais jamais travaillé, qui est comment je communique sur mon métier Et c'était pas évident du tout, du tout, du tout.
La communication est un métier. C'est pour certains c'est instinctif, pour d'autres c'est plus
compliqué. Voilà, non, ce n'était pas instinctif pour moi. Et ce que je n'ai pas su faire pendant le Covid, je l'ai appris dans ce groupe d'entrepreneurs semaine après semaine.
Quand tu parles de groupe d'entrepreneurs, tu parles de réseau d'entrepreneurs, c'est ça ? Qui se réunissent de manière régulière ?
Oui, j'ai rejoint un groupe BNI.
D'accord.
Et j'ai appris une méthode de communication, puisque j'ai un métier avec beaucoup de jargon. Et ça m'a pris de nombreux mois à faire un pitch sans jargon, qui soit pas trop ennuyeux et qui parle aux gens.
D'accord. Chose qu'on n'apprend pas forcément à faire ni à l'école ni
nulle part en fait.
Ouais. Donc le réseau, les réseaux d'entrepreneurs sont aussi une solution pour se former finalement.
Ah oui, moi j'ai un métier qui évolue constamment parce que je distribue 30 partenaires assureurs, qu'eux aussi ont leur vie, leur haut, leur bas. On a parlé de la gestion tout à l'heure. Un assureur qui a de très bons produits, mais une gestion calamiteuse, il va me faire perdre du temps. Il va surtout faire perdre du temps à mes clients. Ça n'est pas possible. Donc, il faut les renouveler. Il y a la réglementation qui évolue beaucoup, qui devient de plus en plus contraignante. Donc, je suis obligée de me réinventer m'adapter et de me réinventer en permanence. Là, en 2026, j'ai changé de CRM et j'ai créé un système d'échange de données avec mes prospects et clients pour ne plus recevoir de données sensibles par mail où mes clients m'envoient des RIB par WhatsApp, je me colle au plafond à chaque fois. Non, il ne faut pas faire ça. Et donc, j'ai un site sécurisé pour échanger des données sensibles. Et voilà, donc 2026, il ne faut pas dormir.
Je crois qu'il ne faut, il faut jamais dormir quand on est entrepreneur. Sauf pour prendre un peu de répit de temps en temps. On en a besoin aussi pour maintenir son activité. Merci Isabelle pour tout ça. J'ai une dernière question pour toi avant de conclure cette émission. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
En tant que entrepreneur, maman, c'est comme si j'avançais sur mes deux jambes en fait. J'ai une jambe qui me permet de gagner ma vie, de m'épanouir. Et j'ai mes enfants que j'aime et que j'adore, qui ont grandi, mais que j'ai réussi à accompagner tout au long de ce chemin en étant, somme toute, une maman présente. Et être entrepreneur m'a permis de choisir les moments que je passais avec eux et d'être présente à des moments clés et d'avoir des rendez-vous dans la semaine avec mes enfants, ce qui n'est pas toujours possible de faire en tant que salariée. Et ça, je trouve que c'est une des très jolies surprises de l'entrepreneuriat, en dehors du fait que j'ai fait des rencontres fantastiques grâce à l'entrepreneuriat. J'ai rencontré des clients, des prestataires, des partenaires, tout un réseau de gens passionnés, de gens investis, comme je disais tout à l'heure, qui ne râlent pas trop, sauf contre toujours les mêmes, mais moi aussi, dont le nom commence par U. Mais à part ça, un souci de s'entraider aussi. Ça a été une des belles surprises parce que être entrepreneur, c'est aussi se sentir seul. Et quand on a un réseau d'entrepreneurs dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers, ça permet d'échanger sur des difficultés qui peuvent être communes et des solutions apportées par d'autres très pratico-pratiques qui permettent d'aller de l'avant.
Merci Isabelle, merci. Le mot de la fin pour moi, ça sera que ton parcours a été riche de relations humaines, en fait, que ce soit avec tes enfants, tes partenaires ou tes clients. Merci beaucoup pour ta participation et pour ce beau parcours. C'était Les Dessous de l'entrepreneuriat avec Angèle sur IDFM Radio. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Retrouvez-moi tous les 2e et 4e mardis de 18h à 19h30 dans l'émission Les Dessous de l'entrepreneuriat.